Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Bonjour et c'est un plaisir d'être en votre compagnie. Ravi de vous annoncer que Francis Laloupo est avec nous cette semaine. Bonjour Francis.
Bonjour Liliane, je n'ai pas pris des grandes vacances comme vous, donc ça n'a pas duré bien longtemps. Je suis très heureux de vous retrouver.
Mais vous nous avez manqué, même l'absence en une émission. Il semble que c'est beaucoup, hein. Les auditeurs ont demandé après vous, mais je leur ai dit que vous serez là avec nous cette semaine.
Vous
et ça y est, c'est fait.
Vous êtes très aimable, Liliane. Je vous reconnais bien là.
La visite jeudi d'une délégation de notables de Tchaourou, village d'origine de l'ex-président Thomas Boni Yayi à son successeur Patrice Talon, va-t-elle permettre de décrisper l'atmosphère politique au Bénin ? La localité a été la semaine dernière théâtre de fortes tensions que les autorités attribuent en partie à Boni Yayi, assigné à résidence. Mercredi, le procureur de la République a déclaré que des mesures coercitives seraient prises à l'encontre de Boni Yayi après des tentatives manqué de son audition par un juge dans le cadre de ses violences post-électorales. En Égypte, la mort brutale et dans des conditions controversées du président déchu Mohamed Morsi divise et relance la question de la réconciliation nationale. Son décès lundi dans un tribunal lors de son procès pour espionnage a été qualifié de meurtre par sa famille politique. Les frères musulmans, des ONG et l'ONU demandent une enquête impartiale alors que les autorités égyptiennes, elles, soutiennent qu'il s'agit de mort naturelle. Mohamed Morsi, tyran ou héros, débat à suivre. Le foot également au menu de votre magazine avec le début en Égypte de la Coupe d'Afrique des Nations de football à 24 et c'est une première. Mais nous parlerons aussi foot féminin. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Parité et égalité oblige. Coupe du monde de foot féminin donc en France. 24 pays répartis en 6 poules de 4 chacune étaient engagés. Parmi eux, le Nigeria, le Cameroun et l'Afrique du Sud représentant l'Afrique. Le Cameroun et le Nigeria se sont qualifiés pour les 8e de finale après la phase des poules. Jusqu'où peuvent-ils aller ? Nous en débattrons. Mais d'abord, place à la présentation de notre plateau avec vous, Francis.
Et vous savez tout sur le football, ma chère Liliane, on l'aura compris. Notre grand témoin invité dans cette édition, dans les studios de BBC Afrique à Dakar, près de vous, donc Liliane, Gilles Yabi est avec nous, fondateur du West Africa Citizen Think Tank, le WATI, économiste et analyste politique. Gilles Yabi, bonjour.
Bonjour Francis.
Merci d'être avec nous et notre confrère invité. Il est avec nous ici dans les studios d'Africa Radio, Louis Magloire Kemayou, journaliste indépendant. Louis Magloire, bonjour.
Bonjour.
Et comme de coutume, petite fiche de présentation de notre grand témoin, Gilles Olakoule Yabi, analyste politique et économiste. Vous avez travaillé pendant 7 ans comme analyste politique principal, puis comme directeur du bureau Afrique de l'Ouest de l'International Crisis Group. Titulaire d'un doctorat en économie de développement de l'Université de Clermont-Ferrand en France, vous avez également exercé le métier de journaliste à l'hebdomadaire Jeune Afrique à Paris. Depuis 2014, vous êtes consultant dans les domaines de l'analyse des conflits, de la sécurité, de la gouvernance politique en Afrique de l'Ouest. Et en parallèle, vous avez développé le projet WATI, le West Africa Citizen Think Tank, soutenu par une communauté de valeurs et destiné à stimuler la réflexion et l'action collective dans la région d'Afrique de l'Ouest. Gilles Yabi, vous serez donc notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Liliane, c'est à vous à Dakar.
Merci Francis. Après les violences de Tchaourou au Bénin et localité d'origine de Yayi Boni en début mai, lesquelles violences auraient fait au moins 4 morts selon Amnesty International ? Eh bien, le procureur de la République a dit disposer d'éléments compromettants contre Boni Yayi. Après des auditions manquées, le procureur annonce que des mesures coercitives allaient être prises à l'encontre de l'ex-chef d'État et ses avocats contre-attaquent. Correspondance mercredi de Rachida Ousouf de BBC Afrique.
Prendre des mesures coercitives pour écouter Boni Yayi constitue une violation du code de procédure pénale. Estiment les avocats de l'ancien président, c'est le moyen le plus simple pour l'inculper dans une procédure mal ficelée. Et leur client compte s'opposer à toute audition dans ces conditions, fait savoir Maître Renaud Agboudjo.
Peut-être que demain, M. Boni Yayi sera interpellé. Dans quelles conditions, on ne sait pas. Parce qu'en tout état de cause, M. Boni Yayi reste ferme. Que tant que le siège de son domicile n'est pas levé, tant que on ne lui dit pas qui a donné l'ordre d'encercler sa maison, tant que on ne l'autorise pas à se faire soigner, il dit que les conditions ne seront pas réunies pour se faire entendre.
De son côté, le procureur de la République déclare que l'ex-chef d'État, Boni Yayi, serait personnellement impliqué dans les violences du 1er et du 2 mai qui ont fait au moins 4 morts selon Amnesty International. Mario Metonou ajoute qu'il sera contraint à une audition après les 2 auditions manquées.
Des interrogatoires et des pièces au dossier. Il résulte une implication personnelle de l'ancien président de la République, M. Boni Yayi. Tenant ainsi compte de ses déclarations et pièces, le magistrat instructeur a décidé d'entendre M. Boni Yayi. Le refus de M. Boni Yayi de se prêter aux questions du juge d'instruction, en dépit de la prévenance et de la délicatesse observée à son égard, a conduit à présent le juge à envisager à son encontre la mise en œuvre des mesures coercitives.
Rachida Oussou, BBC Afrique, Cotonou.
Voilà, monsieur Gilles Yabi, merci une fois de plus d'être avec nous. C'est donc pour calmer le jeu que les notables de Tchaourou ont initié une mission de bons offices auprès du président Patrice Talon, qui a déclaré au cours de cette rencontre, ou plutôt à l'issue de cette rencontre, qu'il ne voulait aucun mal à son prédécesseur Boni Yayi, qui est toujours, rappelons-le, assigné à résidence. Est-ce qu'il faut comprendre, monsieur Yabi, qu'il n'y a pas de problème de personne entre les deux hommes, comme le soutiennent certains analystes béninois? Autrement dit, comment comprendre aujourd'hui le bras de fer qui semble opposer les deux hommes?
Alors, c'est moi qui vous remercie de l'invitation à partager un peu avec vous mes opinions, ma lecture de la situation, notamment au Bénin. Je crois que, pour répondre à votre question, est-ce qu'il n'y a pas de problème, disons, personnel entre l'ancien président Boni Yayi et l'actuel Patrice Talon? Patrice Talon a dit qu'il n'y en avait pas, que c'était un ami. Bon, je crois que tous les Béninois qui connaissent un peu l'historique de leurs relations, des relations qui étaient plutôt politique très forte, puisque Patrice Talon a été un des, sans doute le bailleur le plus important de la première campagne électorale de Boni Yayi, avant d'avoir des relations très très mauvaises, et on se souvient bien de cette histoire d'empoisonnement. Donc il y a quand même à nouveau toute une histoire connue de tous, et évidemment je pense qu'on voit mal le président Patrice Talon reconnaître publiquement qu'il y a un antagonisme personnel entre les deux, et peut-être des règlements
donc,
de compte.
C'est juste des déclarations politiques,
oui,
qui ne sont pas sincères de la part de M. Talon?
Bon, à nouveau, c'est une personnalité politique, et je crois que dans n'importe quel pays, on ne s'attend pas à ce qu'une personnalité politique, un président de la République, disons, ne tienne pas des propos qui soient parfois purement formels et diplomatiques. À nouveau, ce qui me semble le plus important aujourd'hui au Bénin, ce n'est pas est-ce qu'il y a un antagonisme personnel entre Patrice Talon et Boni Yayi ou pas. Ce qui me semble le plus important, c'est de voir les manifestations de ce qui se passe dans le pays depuis les derniers mois.
Que ces mauvais rapports, disons, manifestes, entraînent.
À nouveau, ce n'est pas seulement le problème que moi je pense qui est réel entre Boni Yayi et Patrice Talon, qui est le seul et peut-être le plus important aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on occulte la crise politique au Bénin, qui est réelle, qui est le résultat des conditions d'organisation des dernières élections législatives le 28 avril. Et il ne faut pas qu'on occulte le fait qu'on est dans aujourd'hui dans une situation où les conséquences, je pense, de ces élections législatives sont beaucoup plus importantes peut-être que certains le pensent, en termes de contrôle absolu de tous les leviers du pouvoir. Et donc je crois qu'il ne faut pas qu'on s'éloigne des vrais problèmes. Et si je reviens aux manifestations de la crise au Bénin, c'est déjà une image internationale qui est aujourd'hui écornée. C'est un pays, un des rares dans la région où lorsqu'on a des manifestations avec des morts de personnes, on est choqué parce que c'est totalement inhabituel. C'est sans précédent le niveau de violence auquel on a assisté. Et je crois déjà qu'on peut dire que l'histoire retiendra qu'effectivement, sous la présidence de Patrice Talon, on a connu ces événements extrêmement violents. Et à nouveau, on n'est pas encore sorti de la crise.
Gilles Yabi, alors pour revenir donc au dernier développement de l'affaire, déjà on va dire l'affaire Yayi Boni, on a bien vu qu'il a fallu attendre plus de 50 jours du blocus du domicile de Boni Yayi pour apprendre qu'une instruction était engagée à son encontre. Vous dites que entre-temps, certains proches du pouvoir ont même prétendu que le blocus militaire du domicile de l'ancien président était destiné à le protéger. Et selon vous, pourquoi avoir attendu 50 jours pour justifier juridiquement cette assignation à résidence de fait?
Je crois que c'est effectivement troublant et c'est pour ça qu'il me semble important de placer ce qui se passe au Bénin dans un contexte plus large, tout de même de restrictions de liberté et peut-être d'instrumentalisation de la justice. Je crois que il y avait clairement une situation assez étonnante où la résidence de l'ancien président était clairement encerclée, hein, ça tout le monde pouvait le constater. En pleine ville de Cotonou, sans qu'il y ait une reconnaissance formelle d'une mise en résidence surveillée, sans qu'il y ait un processus judiciaire qui a été clairement enclenché. Et donc aujourd'hui, les annonces qui sont faites par le procureur laissent à penser disons, il y a de vrais risques effectivement de poursuite de l'ancien président, puisqu'on parle de son implication personnelle, qui serait personnelle dans les événements violents du 1er et du 2 mai, et je crois que ce que cela signifie pour le Bénin, c'est vraiment le risque d'une concentration extrême de tous les pouvoirs dans les mains de l'exécutif. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier que dans tout le processus politique qu'on lit depuis plusieurs mois maintenant, on a aussi une cour spéciale un peu qui a été créée et qui a aussi permis, disons, d'une certaine manière de régler le compte de Sébastien à Javon, qui est aussi un opposant important au président actuel.
Arrivé troisième de 2016.
Oui, Magla Komayou, un premier commentaire sur cette situation, cette dernière péripétie, parce que difficile évidemment d'imaginer qu'il n'y a pas, je dirais, un ciblage évident du personnage de Boni Yayi, puisqu'il y a d'autres acteurs politiques, grands acteurs qui ont été impliqués dans la contestation de ces élections. On pense à l'ancien président de CFOR Soglo, on pense également à Candide Azanaï, opposant désormais. Et on demande finalement pourquoi cela échappe au sort qui est désormais réservé à Boni Yayi.
Je pense que dire à nos auditeurs qu'il n'y a pas de problème personnel entre l'ancien président de la République et celui qui lui a succédé serait un mensonge. Personne ne croirait qu'il n'y a pas de problème. L'un a été accusé de tentative d'empoisonnement de Thomas Boni Yayi et aujourd'hui que le pouvoir a changé de main et donc la force aussi a changé de main. Je pense qu'il ne serait pas exagéré de dire que le président Talon est en train d'utiliser aujourd'hui les moyens de l'État pour régler un contentieux personnel qu'il a avec Thomas Boni Yayi. C'est-à-dire que nous sommes là dans le cas de figure de deux citoyens qui ne sont pas si ordinaires que cela, mais dont la vie devient un enjeu d'actualité à la fois nationale et internationale, parce que à partir du moment où l'ancien président est mise en résidence surveillée sans qu'aucun cadre législatif ou judiciaire ne permette de dire très précisément pour quelles raisons il est ainsi assigné à résidence, il y a un problème, il y a un vrai problème. Et donc je pense que le président Talon gagnerait à ne pas s'épaiser la justice béninoise, parce que c'est très exactement ce qui est en train de se produire. On a vu dans le cas de Jean-Pierre Bemba, et même dans une moindre mesure, dans le dossier ivoirien avec le président Laurent Gbagbo, que la CPI n'avait pas assez d'éléments au moment où elle les a mis aux arrêts et qu'aujourd'hui, elle a été obligée de reconnaître que le dossier était vide. On risque d'arriver à la même extrémité avec le président Thomas Boni Yayi. C'est tout ce que je lui souhaite, mais je souhaite surtout que le fonctionnement de la démocratie béninoise, qui a jusqu'à présent et depuis les années 90 été considéré comme une justice, comme une démocratie exemplaire, que cette démocratie continue d'être exemplaire avec une vraie séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif.
Dans ce niveau, c'est la question de l'état de droit qui est posée aujourd'hui, comme le disait Gilles Yabi. D'ailleurs, Gilles Yabi, j'allais vous lire un extrait d'une déclaration de maître Renaud Agbodjo, l'un des avocats de Boni Yayi, qui dit ceci, la première chose qu'il convient de relever, c'est une grossière irrégularité de droit. En se faisant le porte-parole du juge d'instruction, le procureur a violé le dossier d'instruction et signifie de manière implicite qu'il y a une forme de connivence, il y a une confusion des rôles. C'est vrai, Gilles Yabi, que ce n'était pas au procureur de communiquer à l'opinion les éléments du dossier d'instruction. Ce n'est pas très réglementaire, hein, comme l'ont rappelé les avocats de Boni Yayi. On a là, aujourd'hui, carrément, je dirais, un dysfonctionnement essentiel de l'état de droit au Bénin.
Oui, je crois qu'on peut difficilement contester qu'il y ait un dysfonctionnement de l'état de droit. Maintenant, est-ce qu'il s'agit proprement d'un dysfonctionnement dans le sens où ce serait quelque chose d'accidentel, ou est-ce qu'on est en présence de quelque chose de plus inquiétant qui serait réellement la mise en œuvre d'un plan tout à fait conscient.
Un changement de système, diriez-vous,
des institutions. Pas un changement de système, puisqu'il n'y a pas, de manière formelle, à nouveau, on essaye de respecter les règles, même si on voit bien qu'il y a des fois où c'est difficile de convaincre que les règles sont respectées, mais
Est-ce que les règles sont respectées quand ce sont deux partis proches affiliés au pouvoir qui se trouvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale ?
Justement, ce que j'allais dire, c'est que dans ce processus politique qui aboutit à ces élections législatives, d'un point de vue légal, comme vous le savez, on ne peut pas contester la légalité de l'Assemblée nationale qui est issue de cette élection. Mais on voit très bien qu'il y a évidemment un problème majeur de légitimité. Et on voit aussi que dans le processus qui a été mis en œuvre, il y a eu par exemple cette fameuse affaire du certificat de conformité qui n'était pas dans la loi, mais qui a été introduite par une décision de la Cour constitutionnelle. Absolument. Mais vous voyez, il y a toujours quand même l'apparence du respect de la loi, puisque la Cour constitutionnelle joue un rôle très important dans la régulation des pouvoirs publics. Au Bénin, la Cour constitutionnelle est une institution extrêmement puissante. Elle a des attributions qui sont très importantes. La question, c'est qu'elle est dirigée aujourd'hui par effectivement l'ancien avocat personnel et ancien ministre de la Justice de Patrice Talon, et qu'il y a, disons, un fort soupçon de collusion,
de
en tout cas de manque d'indépendance de la part de la Cour constitutionnelle, absolument.
Gilles Yabi, lui, Kamayou disait tout à l'heure il s'agit bien d'un contentieux personnel et non politique entre Boni Yayi et son successeur. Est-ce que cela signifie que la mission que les notables de Tchaoro ont entrée, des notables de Tchaoro va finalement permettre d'aboutir à une solution politique de cette crise plutôt qu'à à celle judiciaire, puisqu'on voit que le président Boni Yayi fait l'objet de poursuites, mais la démarche des notables donne l'impression qu'on va finalement aboutir à une solution politique.
Alors, je ne suis pas sûr que Luigi ait dit qu'il n'y avait pas de problème politique. Je pense qu'il a dit qu'il y a bien un problème personnel, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi un problème politique.
Donc,
je crois que le problème politique, il est important.
Oui.
Oui, il est absolument important. Et ensuite, la médiation, ou plus exactement la visite de notables de Tchaoro, il faut quand même dire d'où elle vient. Elle est venue parce que elle fait suite à une série de violences qui ont été très importantes à Tchaoro, qui est, disons, la ville natale de Boni Yayi, et on a eu des événements violents aussi à Savé, toujours dans la même région des collines. Et est-ce que cela me pousse à dire, c'est surtout qu'aujourd'hui, pour moi, le risque, le premier, ce n'est pas simplement la régression de la démocratie et des libertés. Patrice Talon n'est pas le seul responsable d'ailleurs de ces régressions.
À quoi faut-il s'attendre après cette démarche abandon de poursuite contre Boni Yayi, et que finalement ils disent oui, les notables sont intervenus, il faut qu'on mette fin à cette situation?
Alors je vais peut-être terminer sur ce que je voulais dire, parce que je pense que pour moi c'est très important lorsqu'on parle de ces questions, disons d'actualité, de ne pas perdre de vue l'essentiel. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans la région ouest-africaine sur les questions de crise et de conflit. Ce qui me préoccupe au plus haut point, c'est le fait qu'on ait aussi une fissure de l'unité nationale. Lorsqu'on crée les conditions d'une crise politique, on crée les conditions de mécontentement important, en particulier dans une partie du pays. Et évidemment, la partie qui est la plus fidèle à Boni Yayi, c'est là où on a observé les dernières violences. Je crois que ça, c'est important de le souligner. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on va avoir une sorte de détente qui va faire suite à cette visite des notables de Tchaoro au président de la République? Je crois qu'il ne faut pas s'avancer trop vite. On peut avoir une détente, mais les questions de fond, je ne suis pas sûr aujourd'hui que le pouvoir soit prêt à les aborder.
La question de fond, pour vous, reste le contentieux politique né des conditions d'organisation des dernières législatives.
Oui, la question de fond, c'est quelle est la vision que le président Talon a du fonctionnement des institutions dans une démocratie béninoise qui essaie de se consolider depuis 20 ans. Quelle est sa vision du pouvoir?
C'est ça qui est obligatoire. On vous revient.
Merci.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
suite du débat BBC Afrique, Africa Radio. Notre grand témoin invité dans cette édition, Gilles Yabi, fondateur du West Africa Citizen Think Tank, le WATI, économiste et analyste politique. Notre confrère invité, Louis Magloire Kemayou, journaliste indépendant. Gilles Yabi, alors, on a vu hein, ces derniers jours, disons, une sorte d'internationalisation de la crise béninoise. Patrick Hatchi, secrétaire général de la présidence ivoirienne, s'est rendu à Cotonou le 12 juin dernier pour porter un message du président Alassane Ouattara afin de trouver les voies de sortie de crise dans ce pays. Le gouvernement nigérien a également exprimé de vives préoccupations à l'égard de la situation. Et on a vu cette lettre adressée à la CEDEAO, à l'Union africaine, par les anciens présidents Olusegun Obasanjo du Nigeria et John Kufuor du Ghana. C'est la première fois, en tout cas, Gilles Yabi, depuis 30 ans, hein, que des pays voisins interviennent ainsi dans les affaires intérieures du Bénin. Est-ce que ces interventions, selon vous, peuvent infléchir les orientations politiques actuelles du pouvoir béninois?
Ben, il faut l'espérer. À nouveau, on ne sait pas très bien ce que le président Talon va décider et s'il a été sensible à toutes ces interventions extérieures. Je crois qu'il a rendu visite au président nigérien Buhari également. Pour moi, ça me permet de souligner ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le principal risque, c'est un risque de stabilité et de sécurité. Lorsqu'on est dans une région ouest-africaine où on a tous les pays du Sahel qui sont dans une situation extrêmement préoccupante, dont deux, le Burkina Faso et le Niger, qui sont des voisins immédiats du Bénin, et dans sa partie septentrionale, lorsqu'on est dans une région où on a en Guinée, en Côte d'Ivoire, des élections qui approchent et qui suscitent déjà beaucoup d'inquiétudes, je crois que c'est pas le moment de créer une nouvelle crise dans un pays qui depuis 20-30 ans essaye à nouveau de garder sa stabilité dans une situation de démocratie. Alors moi je fais pas partie des gens qui idéalisent hein, le fonctionnement politique de démocratie électorale et donc le Bénin, je qualifiais la démocratie au Bénin de démocratie corrompue avant l'élection de Patrice Talon, donc j'ai pas un point de vue extrêmement positif sur ce qui a été fait pour consolider la démocratie béninoise au cours des deux dernières décennies, et Patrice Talon n'est pas le seul comptable de cela. Mais par contre, je crois qu'aujourd'hui, on franchit un cap, c'est le cap de la violence. Dès lors qu'on commence à accepter que dans la compétition politique, on crée les conditions de la violence, et dès lors aussi qu'on semble mettre la main sur toutes les institutions qui peuvent servir de contre-pouvoir, je crois que là, effectivement, le pays court un danger, et c'est d'une certaine manière légitime qu'on ait des interventions extérieures.
Donc vous pensez que toute l'énergie des politiques devrait plutôt se concentrer dans la meilleure façon de prévenir le pays d'éventuelles attaques dans un contexte sous-régional en crise que vous avez décrit?
Je crois à nouveau qu'il y a deux priorités. La première, c'est effectivement de s'assurer que la crise politique ne fragilise pas le pays de telle manière à ce qu'il devienne vulnérable également à des menaces sécuritaires qui se trouvent déjà tout près, à nouveau, je rappelle, des frontières béninoises. Et le deuxième impératif, c'est celui de protéger les acquis en termes de liberté, qui sont quand même des acquis fondamentaux pour les Béninois. La démocratie béninoise, à nouveau, elle est, à mon sens, largement corrompue et elle a été aussi largement improductive dans le sens que la démocratie n'a pas produit les résultats espérés en termes de changement de la société, en termes de diminution de la corruption, au contraire. Mais je crois que les Béninois sont très attachés
à
la liberté.
Est-ce que vous irez jusqu'à dire que, Gilles Yabi, avant d'écouter Louis Magloire Kemayou, est-ce que vous direz que ce qui se passe aujourd'hui au Bénin résulte justement de cette corruption de la démocratie, telle que vous venez de le dire?
Oui, je crois qu'on peut forcément établir un lien entre l'évolution, je dirais, un peu de longue durée de la démocratie béninoise et ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a jamais comme ça de phénomène qui ne soit pas aussi ancré dans une histoire récente ou plus ancienne. Il est très clair que, et c'est d'ailleurs ce que je disais dans cet article avant l'élection de Patrice Talon, c'était de dire qu'au fond, si Monsieur Talon devenait président, c'était aussi justement l'épilogue un peu du fonctionnement politique du pays, puisque lui-même a été un acteur majeur, disons, dans l'ombre de cette politique, et il l'a d'ailleurs reconnu. Et ce qu'il essaie de dire aux Béninois...
À Boni Yayi.
Au-delà du soutien à Boni Yayi, c'est quelqu'un qui, en tant qu'homme d'affaires extrêmement puissant du pays, a financé énormément d'acteurs politiques. Et donc, ce qu'il essaye de présenter aux Béninois, c'est un peu une manière de dire, oui, j'ai été d'une certaine manière co-responsable de ce qui s'est passé, et maintenant j'essaie d'assainir le champ politique par des réformes réforme du système partisan, etc.
D'accord. On va peut-être écouter Maga Kemayou.
Oui.
Lui, vous expliquer un peu, est-ce que dans cette crise, on peut y voir, disons, la perspective des élections présidentielles qui s'annoncent en 2020? Est-ce que c'est cette élection qui se joue déjà aujourd'hui?
Non, parce que je crois que les conditions dans lesquelles le président Thomas Boni-Yayi est parti ne permettait pas de présager qu'il revienne sur la scène politique aussi vite qu'il l'est revenu là actuellement. Je pense que ce n'est pas tout à fait cela qui est en jeu. En revanche, ce qui est certain, c'est que les conditions dans lesquelles Patrice Talon a pu déposer sa candidature et la faire valider sont très contestables. À partir du moment où vous prétendez diriger un pays, mais que vous avez une plainte déposée contre ce pays-là, je vois mal comment vous pouvez être à la fois juge et parti dans le procès que vous auriez intenté et qui serait allé à son terme en étant à la fois président de la République et accusateur du président du pays dont vous prétendez être à la fois le garant des institutions et le principal défenseur à la fois en termes d'état de droit et de représentativité.
Vous parlez donc, du contentieux qui a précédé l'élection de Patrice Talon. Hein.
Oui, c'est-à-dire qu'il y avait un procès qu'il avait intenté contre l'État béninois. Il n'a pas retiré sa plainte. Cependant, il a pu compétir et gagner l'élection présidentielle. Probablement qu'il y a eu un vice de procédure qui n'a pas attiré l'attention du législateur, mais il faut quand même le rappeler, il y a eu ce contexte-là. La deuxième chose, c'est que nous sommes quand même dans un pays où on est pas qu'au Bénin, mais dans la plupart des pays africains, à l'attente de l'homme providentiel. Et cet homme providentiel a semblé être Patrice Talon. Mais il se trouve dans l'exercice du pouvoir qu'il est providentiel pour son intérêt à lui. Il oublie aujourd'hui d'être au service de l'État, d'être au service des Béninois qui attendent qu'il leur permette de franchir un cap à la fois dans la vie démocratique du pays, mais également dans le mieux-être au quotidien et le mieux vivre ensemble. Malheureusement, il n'a répondu à aucun de ces dossiers. Pire encore, sur le terrain des acquis sociaux, par exemple, quand vous voyez ce qui a été fait comme casse concernant les droits des travailleurs au Bénin, je ne peux pas dire que ça a été une réussite. C'est même carrément un échec. Aujourd'hui, on peut, après avoir servi l'État, être renvoyé et ne bénéficier que de 9 mois de salaire, même si on avait servi pendant 40 ou 50 ans l'État béninois. Donc je pense que sur le plan social, il y a eu une vraie casse et que c'est cette casse au niveau social grand public qui est en train de se répercuter également sur les personnalités politiques.
Dans la logique de Lionel Zinsou que Patrice Talon a battu, qui estime que tout ce que Patrice Talon fait en ce moment, c'est pour masquer son mauvais bilan. Il déclare ceci exactement. Les sondages indiquent depuis plus d'un an maintenant que le régime dans les élections va trouver 80% d'hostilité et 20% de solutions.
Oui, parce que on se rend compte qu'il y a quand même une privatisation grandeur nature de l'État béninois. C'est-à-dire que c'est à la fois des entreprises de Patrice Talon, mais l'État également qui devient une entreprise parmi tant d'autres dans le patrimoine du président Patrice Talon. Ça pose un vrai problème à partir du moment où on est censé diriger l'État et le faire de façon impartiale en étant à équidistance des intérêts de tous les citoyens béninois. Je pense que c'est un vrai problème.
Une dernière question peut-être Yabi. Une question plus générale. Est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir béninois est en train de créer, peut-être à son corps défendant, les conditions d'un isolement de ce pays sur la scène régionale et internationale ? Isolement politique.
Alors, je ne sais pas si on peut parler d'isolement. C'est vrai que le président Talon a aussi souvent boycotté des rencontres régionales ou africaines ou internationales. Et donc, je crois que cela n'aide pas nécessairement aussi d'ailleurs à la réalisation de ses ambitions économiques. Et je crois que c'est ça qu'il faudrait aussi souligner aujourd'hui, c'est que la crise politique et les violences qui finissent par faire parler du Bénin au niveau international, cela évidemment ne rend pas service à l'économie non plus. On voit mal comment est-ce que les ambitions de Patrice Talon de réalisation de son programme ambitieux d'investissement, comment cela pourra se faire dans le contexte d'un pays qui maintenant est surveillé, où on craint, disons, une détérioration de la situation politique et sécuritaire.
Il y a bien 30 secondes, deux mots selon vous pour deux solutions pour sortir de la crise actuelle.
D'abord, c'est toujours facile de le dire, mais il faut bien sûr qu'il y ait dialogue. Avant de pouvoir parler des solutions possibles, il faut bien que des gens se parlent pour imaginer une solution. Donc, le dialogue reste, disons, un préliminaire déjà à la recherche de solutions. Mais pour qu'il y ait dialogue,
sous
il faut
une médiation sous-régionale africaine.
Je pense ou nationale. Je pense que cela peut être nécessaire. Je ne suis pas toujours favorable à l'internationalisation des crises politiques sur le continent, mais je crois que dans le cas précis du Bénin, le fait que le président Talon ne semble pas, disons, voir peut-être la gravité de la situation, je crois que ça milite en faveur, disons, d'une médiation au moins régionale. À nouveau, on est dans une région qui est extrêmement, extrêmement volatile. Je crois qu'il faut insister là-dessus. Et deuxième mot, en termes de solution, ben, à nouveau, il y a une crise politique et institutionnelle. Ce qui est important, à mon avis, c'est de voir qu'aujourd'hui, le contrôle absolu de tous les leviers, ça veut dire aussi contrôle de la commission électorale, de la Cour constitutionnelle. Toutes les nominations, en fait, reposent sur le président et sur l'Assemblée nationale. Donc, lorsque vous avez un contrôle absolu de l'Assemblée nationale, cela induit également un affaiblissement total de l'ensemble du dispositif prévu par la Constitution béninoise d'équilibre des pouvoirs.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Notre grand témoin invité, Gilles Yabi, fondateur du West Africa Citizen Think Tank, Wati, économiste et analyste politique, et Louis Magloa Kemayou, notre confrère invité. Louis Magloa Kemayou, journaliste indépendant, parle à présent de l'Égypte avec la mort subite et la discrète inhumation de Mohamed Morsi, premier président élu après la révolution de la place Tahrir. Il est mort donc lundi dernier à l'âge de 67 ans dans l'enceinte d'un tribunal du Caire où il comparaissait. Élu en 2012, puis destitué par l'armée en 2013, remplacé à la tête de l'État par son ancien ministre de la Défense, Abdel Fattah al-Sissi. Mohamed Morsi était incarcéré, plusieurs fois condamné, et a été discrètement inhumé dès mardi dernier, une mort jugée suspecte par certains gouvernements et organisations ainsi, alors que l'ONU, Amnesty International ou encore Human Rights Watch ont réclamé une commission d'enquête indépendante pour déterminer la cause de cette mort. La confrérie des frères musulmans a dénoncé un meurtre à petit feu, je cite, tandis que le président turc Recep Erdogan déclarait, lui, que, je cite, « l'histoire n'oubliera jamais les tyrans qui ont conduit Mohamed Morsi vers la mort en le mettant en prison et en le menaçant de l'exécuter ». Fin de citation. Gilles Yabi, le moins qu'on puisse dire, c'est que la mort de l'ancien président égyptien a quand même ébranlé une partie de l'opinion internationale.
Alors, ébranlé, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu des réactions, fort heureusement, mais je suis pas sûr qu'elles soient aussi fortes que ça de partout. Je crois surtout que cela révèle la nature quand même du régime qui est en place en Égypte, sous Sissi, qui est un régime extrêmement dur. Parce que lorsqu'on croit aux droits de l'homme, évidemment, on y croit aussi, même pour les pires criminels. Donc, lorsque quelqu'un est en prison, lorsqu'il est malade, et lorsqu'on sait très bien qu'il y a un risque de mort, on s'assure, disons, d'apporter des soins. Et dans le cas de l'ancien président Morsi, son état de santé était connu. Et donc, oui, le fait de dire qu'il y a une sorte de meurtre à petit feu, je crois que ce n'est pas excessif de dire cela. Cela traduit à nouveau la dureté du régime qui est en place.
Donc, Mohamed Morsi a dirigé pendant un an. Ça ne vous étonne pas au regard de ces conditions de détention?
Non, à nouveau, je ne suis pas en particulier l'Égypte, donc je n'étais pas nécessairement au fait de la détérioration de l'état de santé du président
Morsi. Mais quand même, l'impression
Morsi
qu'on a, je peux me tromper, vous me direz, c'est que depuis l'éviction par l'armée de Mohamed Morsi en 2013, suivie de la répression des frères musulmans, le pouvoir qui est arrivé après cela, celui de Al-Sisi, il semble qu'ils ont toujours, fonctionnent comme ils veulent. C'est-à-dire que je n'ai pas eu le sentiment qu'il y a eu des pays ou des gouvernements étrangers qui ont, arabes peut-être, qui ont essayé de, je vais dire, remonter les bretelles à la façon dont le pouvoir égyptien fonctionne. Vous venez de le dire, c'est un régime dur.
Oui, à nouveau. Enfin, la révolution égyptienne s'est terminée depuis longtemps. Je crois que il faut pas se faire d'illusions là-dessus. Il y a eu Mohamed Morsi élu démocratiquement. Alors, tout le monde rappelle qu'il a été élu avec 51% seulement, mais enfin, il y a beaucoup de
mais
pays.
Élu quand même.
Voilà, tout à fait, où des chefs d'État sont élus à 51%. Donc, il a été élu. C'est vrai qu'il y a une contestation populaire massive qui a créé les conditions d'un retour de l'armée par un coup d'État.
Mais pourquoi sa détention pendant 6 ans? On n'a pas fait l'objet d'une condamnation ferme ou peut-être des mesures de rétorsion et de représailles de la part de certains pays dits démocratiques.
Parce que c'est l'Égypte, parce que c'est un pays qui est important, c'est un pays qui est stratégique, c'est un pays qui, pendant longtemps, sous Hosni Moubarak, était un allié très important des États-Unis. Le régime de Moubarak n'était pas non plus un régime extrêmement sympathique, mais il est resté pendant très longtemps. Donc c'est, on revient hein, à la réelle politique et le maréchal Al-Sissi représente l'image de la stabilité dans le contexte à nouveau d'une Afrique du Nord et d'un Moyen-Orient également qui est extrêmement troublé. Et donc les puissances sont toujours à la recherche un peu des incarnations de la stabilité, quelqu'un qui peut tenir le pays. Et de l'autre côté, vous aviez les frères musulmans qui sont puissants et évidemment qui sont considérés comme une menace aussi pour beaucoup de pays, y compris des pays arabes. Donc c'est très clair qu'on a laissé un peu Mohamed Morsi sortir du champ politique très vite et finalement on s'est désintéressé aussi des conditions de sa détention. À nouveau, c'est la réalité du régime égyptien aujourd'hui qui est quand même assez sûr de lui et qui a le soutien tacite en tout cas de la plupart des puissances.
Dans l'Arabie Saoudite, les États-Unis, Israël en quelque
oui,
sorte.
Très, à nouveau, c'est évident que ces puissances sont toujours à la recherche de pouvoirs qui peuvent défendre leurs intérêts et la première priorité, ce n'est pas nécessairement la démocratie ou le respect des droits humains à l'intérieur du pays. Je dirais peut-être juste une chose qui me semble être aussi importante, c'est que ce calcul sur la stabilité auquel on est habitué, ça va tenir, hein, ça peut tenir pendant 20 ans. Hosni Moubarak a tenu pendant cette durée-là, donc on peut tenir encore dans un régime militaire maquillé un régime démocratique pendant longtemps, mais à un moment ou un autre, il y a toujours le retour de bâton d'une certaine manière. Les frères musulmans, évidemment, aujourd'hui, se sentent victimisés et à un moment ou un autre, effectivement, ils resteront une force politique importante et une force sociale importante en Égypte.
Louis Mangak Mayou, le retour de bâton, dit Gilles Yabi, est toujours possible, mais alors on se souvient, je dirais, de conditions de la destitution hein, dans laquelle. Les conditions dans lesquelles Mohamed Morsi avait été destitué. On se souvient à l'époque que les États-Unis avaient même dit voilà, ce n'était pas un coup d'État, parce que finalement, on a l'impression que ça arrangeait tout le monde. Est-ce que sa mort aujourd'hui, je veux dire, ferme symboliquement, en tout cas, toute la page de cette révolte qui avait quand même été présentée à un moment donné comme une nouvelle ère, entre guillemets, démocratique qui s'ouvre en Égypte?
Moi, je pense que de façon plus large, on peut dire qu'on est dans la troisième mi-temps de la lutte contre le terrorisme international. Il y a eu la période qui a succédé à l'attentat contre les tours jumelles aux États-Unis. Puis il y a eu le printemps arabe. Et là, aujourd'hui, on est dans le service après-vente de ce printemps arabe. Et
pour parler. C'est plutôt un retour à l'autocratie, non?
C'est quasiment un retour. Parce que ce qui s'est passé avec Tahrir, c'est qu'on avait l'impression que le peuple avait choisi la voie de la liberté. Contre celle de l'assurance que pouvaient donner les régimes militaires durs et avec des alliances objectives très fortes, comme celle avec les États-Unis, Israël, mais que aujourd'hui le choix est inverse. C'est que les gens ne veulent plus autant de liberté que cela. Ils sont prêts même à céder des champs importants de liberté à l'État pourvu que leur sécurité soit assurée. Et cette sécurité est incarnée par les militaires. Et donc, c'est ce qui explique quelque part. J'étais en Égypte lors de l'élection de Mohamed Morsi. Non seulement l'Union africaine n'a pas été capable de qualifier ce qui s'était passé. Parce que quand on disait coup d'État, les autorités égyptiennes sortaient de leur gonds. Parce qu'elles disaient, il n'y a pas eu coup d'État. Il y a eu un soulèvement populaire.
Et la position de l'Union africaine sera encore d'autant plus compliquée aujourd'hui que Al-Sissi est le président en exercice.
Absolument. Donc il y a déjà eu ce précédent qui faisait que, n'ayant pas pu qualifier cela de coup d'État, l'Égypte n'a pas pu être mise au banc ni de l'Union africaine, ni de la francophonie, et encore moins au banc de la communauté internationale à travers les Nations unies. Donc ça, c'était un premier acquis. Le deuxième, c'est que les populations égyptiennes elles-mêmes ont intégré le fait que la menace terroriste et la menace de l'instabilité permanente, comme on l'a vu en Tunisie, était une menace qui pouvait être réelle.
Il faut dire qu'on a collé beaucoup l'étiquette islamiste à Mohamed Morsi. Oui. Est-ce que c'est ça qu'il a payé finalement politiquement ?
Je pense qu'il a d'abord payé cette étiquette parce que les frères musulmans, quoi que l'on dise, ont quand même mauvaise presse depuis Nasser et surtout depuis l'assassinat de Sadat. Donc ça, c'est une première chose qui était contre eux. Mais la deuxième, et qui est beaucoup plus vertueuse, c'est que c'est la seule force politique qui est restée très intransigeante dans l'opposition pendant toutes ces années où l'Égypte pouvait être considérée comme une dictature avant les élections et la première élection démocratique qui a été celle de Mohamed Morsi. Donc ça, on ne peut pas le nier.
Dans la situation de Mohamed Morsi peut aussi justifier par le fait qu'il y avait comme, si je vous suis bien, une sorte de consensus national et international pour liquider les frères musulmans dont il était le leader.
Oui, je pense qu'il a fait les frais malheureusement d'un alignement de planètes défavorables qui était celui l'alignement en faveur d'une lutte contre les forces naissantes islamistes caractérisées par les Tunisiens, par les Turcs. Et cette lutte-là a été financée, entre autres, par l'Arabie Saoudite, qui est l'un des parrains aujourd'hui les plus forts du régime égyptien et d'une certaine manière du régime soudanais également.
Julien, il faut quand même, il faut peut-être s'inquiéter de temps en temps de ces consensus occasionnels, non ?
Oui, il faut s'en inquiéter à nouveau, surtout lorsqu'ils se font au détriment des perspectives de bien-être des populations. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus, disons, négliger les questions de sécurité. C'est vrai que la stabilité, elle est importante. Mais je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut construire des régimes qui soient à la fois démocratiques et qui reposent sur des États, qui soient organisés, qui aient des forces de défense et de sécurité absolument capables. Mmh. Et c'est vrai, en Égypte, il y a un État. Je crois que c'est bien d'avoir aujourd'hui, c'est bien de dire que c'est important d'avoir des États qui soient forts, mais la force des États peut se construire sans qu'on ait, disons, des violations massives des droits de l'homme et à nouveau dans un contexte d'équilibre des institutions.
En quelques mots, Gilles, donc, vous disiez, M. Yabi, que voilà, allier sécurité et démocratie, c'est assez difficile, semble-t-il, pour le cas de l'Égypte. Mais en tout cas, les Nations Unies ont demandé une enquête indépendante, voilà, sur la mort de Mohamed Morsi. Est-ce qu'il y a des chances que les autorités égyptiennes accèdent à cette demande onusienne ? Et sinon, qui peut l'y contraindre ?
Oh, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment contraindre le gouvernement égyptien à mener une enquête indépendante.
Le gouvernement a répondu en accusant l'ONU de vouloir politiser un décès naturel.
Oui, absolument. Et donc, à nouveau, ce sera difficile de contester les résultats d'un rapport médical qui sera soumis par les autorités égyptiennes et qui prouverait qu'il s'agissait de mort naturelle, de façon une mort naturelle qui est provoquée par, disons, une absence de soins pendant longtemps. Voilà, ça reste une mort naturelle, mais évidemment, ça ne décharge pas l'État égyptien de sa responsabilité. Mais à nouveau, je ne crois pas beaucoup que l'épisode de cette disparition de Mohamed Morsi change énormément la perspective de soutien à nouveau de grandes et de moyennes puissances au pouvoir égyptien, et je ne suis pas sûr que ça changera beaucoup de choses, disons, aux perspectives politiques de l'Égypte.
Morsi, perte et profit.
C'est un peu ça.
D'accord. Francis, il nous reste quelques minutes
pour, oui, pour parler de votre sujet favori. Oui.
Ben, je disais que c'était le vôtre, le football féminin notamment, monsieur Laloupo, puisque les affiches des huitièmes de finale du Mondial 2019 de football féminin qui se jouent d'ailleurs chez vous en France sont connues. Il y a 16 équipes qualifiées sur les 24 au départ. Deux de ces équipes sont africaines. Il s'agit de l'équipe du Nigeria qui va défier l'Allemagne samedi et les Lions indomptables du Cameroun qui rencontrent dimanche l'Angleterre. Rappelons, Francis, que l'Afrique du Sud, l'autre représentante du continent et dont c'était la première participation à ce rendez-vous, a été éliminée. Voilà. Alors, je ne sais pas, je crois que je vais
c'est
commencer par vous, lui Kemayou, vous qui êtes en France et qui
Liliane,
êtes, j'imagine,
tout.
Supporter comme Francis Laloupo, des équipes africaines. Deux sont encore en course, lui et Mayou, et se sont qualifiés in extremis. Les Nigérianes ont perdu, en tout cas les Nigérianes et les Camerounaises se sont qualifiées in extremis, je le disais. Elles sont donc deux à aller en huitième de finale. Est-ce que pour vous, cette difficile qualification est peut-être une chance pour assister au niveau des huitièmes de finale à plus de détermination de ces deux équipes, ou est-ce que c'est plutôt un handicap pour garder l'optimisme dans la suite de la compétition, lui ?
Non, c'est moi d'abord, je suis un amoureux du foot, même si je suis pas un journaliste très spécialisé football, mais j'adore le football et j'adore regarder les matchs de foot. Je me suis converti à la religion du foot beaucoup plus tardivement que vous, Liliane, mais le fait est que là, la fibre patriotique parle et je ne peux pas ne pas soutenir les Lions indomptables du Cameroun. Mais à ce stade de la compétition, l'évidence même, c'est que on est à des matchs coup près. Où ça passe, où ça casse. Et ce sont des compétitrices, ces joueuses-là, aussi bien celles du Nigeria que celles du Cameroun. Donc je pense qu'elles sauront trouver les ingrédients pour avancer dans la compétition.
Les habitués des finales continentales.
Ce sont des habitués. Et il faut dire que ce sont à la fois la championne en titre, c'est-à-dire le Nigeria, et la vice-championne, le Cameroun, qui sont arrivés là en huitième de finale, et que le Nigeria avait déjà atteint les quarts de finale en 1999, si je ne me trompe pas. Donc l'idée ici, c'est d'aller un peu plus loin que cela. Le Cameroun n'a fait qu'un huitième de finale, mais commence aussi à étoffer son palmarès dans la compétition. Donc espérons qu'elles nous apporteront suffisamment d'émotions positives et que le parcours sera à la hauteur des espoirs.
Vous n'êtes pas inquiet pour la suite de la compétition au regard, disais-je, des difficiles conditions de leur qualification?
Louis paraît très inquiet, si vous voulez savoir, oui. Parce qu'on n'avait pas l'image.
Non, je suis moyennement inquiet parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même des égarements au niveau défensif concernant l'équipe du Cameroun et que sur le plan offensif, le Nigeria n'a pas donné toutes les assurances de ce qu'il peut déjà produire comme football sur le continent africain. Cela lui a suffi pour rester au toit du foot africain, mais je pense que les limites de cette façon de fonctionner se ressentent aujourd'hui dans la compétition. Et puis il y a une autre chose que je voulais rajouter concernant les équipes africaines, c'est que dans le cas de la championne et de la vice-championne, on a quand même un pays qui y va avec un coach national, c'est le coach de l'équipe du Cameroun. On n'a pas beaucoup vu ça à la fois en formation homme et encore moins dans les moins de 17 ans. Là, on a une formation camerounaise, 100% camerounaise d'un bout à l'autre et c'est plutôt encourageant.
Je sais pas si c'est un message, Francis, oui. Pour l'équipe masculine oui. De football camerounais qui
j'allais juste demander si l'équipe féminine du Cameroun a pu toucher ses primes plus vite que les hommes.
L'équipe féminine a posé ses problèmes de primes beaucoup plus tôt, en amont, et a donc pu faire régler ce problème bien avant le début de la compétition, à la différence de l'équipe masculine qui a posé son problème juste avant de prendre l'avion. Et donc,
l'avion vendredi, justement, le jour même au démarre la compétition, Gilles Yabi. C'est plutôt inquiétant pour la suite ou le parcours ou la prestation de l'équipe du Cameroun. Je rappelle, il ne s'agit pas simplement de parler de l'équipe du Cameroun, puisque la CAN qui s'est ouverte vendredi, c'est une CAN à 24 et c'est nouveau ça dans l'histoire de ces compétitions.
Et c'est en Égypte, au siège de la CAF.
Voilà.
Alors bon, qu'il y ait des problèmes de primes et qu'on en parle à la veille d'une compétition à laquelle l'équipe de football du Cameroun participe, ce n'est pas vraiment une surprise. Voilà. C'est peut-être un peu le contraire qui est étonnant, c'est lorsqu'on n'a pas
d'affaires. C'est un quasi marronnier.
Juste avant la compétition. Mais merci surtout de me donner l'occasion de faire un commentaire sur un sujet léger. Cela m'arrive très rarement. Et je crois qu'effectivement, la qualification du Nigeria et du Cameroun, des équipes féminines, je crois que c'est une très bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle pour le continent. Et disons, j'ai pas été très convaincu, parce que le bout de match que j'ai vu du Nigeria, notamment sur le plan offensif, mais je crois que le Cameroun, en tout cas, a donné, je crois, vraiment beaucoup de raisons d'espérer.
Plus d'assurance
Oui, plus d'assurance et peut-être plus d'envie. Et je crois que ce côté envie, je trouve que c'est ce qui manque souvent aux équipes africaines, notamment masculines.
On ne sent pas nécessairement. Mais c'est pas parce que je suis en face de vous. Vous avez le droit de dire de faire votre analyse. C'est pas parce que je suis camerounaise et en face de vous.
Non, tout à fait. C'est parce que j'ai vu au moins les buts marqués par l'équipe du Cameroun et je dois dire qu'on sentait. Et puis lorsqu'on marque à la toute dernière minute, cela veut dire qu'on y croit jusqu'au bout. Oui. Et ça, à nouveau, moi j'ai rarement vu des équipes africaines y croire vraiment jusqu'au bout. Et parfois, d'ailleurs souvent, c'est justement dans ces minutes-là que beaucoup d'équipes africaines perdent leurs matchs les plus importants. Je finirai peut-être en disant que la combativité et l'intégrité, disons, et des femmes, c'est peut-être au foot aussi, c'est peut-être ce qui va donne des raisons de croire le plus à l'avenir du continent dans beaucoup d'autres domaines. Je crois qu'il y a, beaucoup de combativité, beaucoup de peut-être d'intégrité. Je ne suis pas sûr que les primes demandées par les Camerounaises, par exemple, soient tout à fait du même ordre que celles demandées par les hommes.
Ça viendra. Mais Gilles, il y a bien d'une exquise courtoisie en face de Liliane et Hacha. J'apprécie beaucoup. Alors, je n'ai pas votre expertise, madame, messieurs, mais j'allais juste vous demander, Louis Magloire-Kemayou, une question beaucoup plus générale, évidemment. Et comment vous expliquez cette montée en puissance du football féminin et cet engouement inédit pour les équipes féminines?
Moi, je pense que on n'a pas vu la vague venir. On voit qu'elle se fracasse contre un mur, mais ça fait longtemps que ça existe. Moi, quand j'étais beaucoup plus jeune au Cameroun et qu'on jouait au foot de rue, il n'y avait pas de distinction entre foot de garçons et foot de filles. Parce que les filles et les garçons jouaient souvent dans les mêmes équipes. Et simplement, la lumière n'a pas été suffisamment mise et suffisamment tôt mise sur le football féminin. Aujourd'hui, ça explose parce que à l'international, il y a un vrai intérêt pour cela. Les États-Unis ont fait un vrai marketing sur le football féminin. Ce sont des joueuses qui se retrouvent beaucoup en équipe nationale, beaucoup plus qu'en club d'ailleurs, et donc cet engouement-là a contaminé l'Europe, et aujourd'hui l'Afrique se dit qu'elle est capable, elle aussi, de tirer son épingle du jeu, et donc ça permet d'avoir un engouement planétaire pour le football féminin, et c'est tant mieux d'ailleurs.
Merci beaucoup, on va écouter à présent les messages des internautes, un message recueilli et livré à présent par Didier Ladislas Lando.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débatbbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/débatbbcafrica.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Bénin, archiduc Théodore de N'Djamena estime que la procédure judiciaire contre l'ancien président béninois Thomas Boniayi est un geste de mauvaise foi du régime Talon qui use de tous les moyens pour se maintenir au pouvoir pendant longtemps. De son côté, Augustin Humbi ne croit pas à un règlement de compte politique. Pour lui, tout citoyen est un justiciable, fut-il opposant ou ancien président. S'il est avéré que Yahi Boni a inspiré toutes ces violences post-électorales, qu'il en réponde, conclut notre internaute de Cotonou. Didos Didier Afoto, lui, s'interroge sur la sincérité de l'appel au dialogue du président Patrice Talon dans son adresse à la Nation du 20 mai 2019, vu ce qui se passe actuellement dans le pays. Égypte, Abdourahman Camara demande pourquoi la communauté internationale n'avait pas réagi sur la condition de détention du président Mohamed Morsi. Teli Gambabari lui s'interroge sur le silence de toute la classe politique africaine suite au décès en détention de Mohamed Morsi. Participation des Africaines à la Coupe du Monde féminine, Sangaré Albert félicite les footballeuses africaines pour leurs prestations. Merci à Renaud Agbodjo-Rodrigue, Octave Nougbodé et à Fodo Espoir Rodrigue qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/débat-bbc-africa-africa-radio et sur Twitter à @débat-bbc-africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous aussi, Ladislas. C'est la tradition, Gilles Yabi. En 30 secondes, une conclusion générale, s'il vous plaît.
Oui, la conclusion générale, en 30 secondes. Francis, et vous n'avez pas entendu.
Oui.
Donc peut-être en parlant sur la sincérité du dialogue dont doutent certains Béninois, dont parle le Patrice Talon.
Oui, c'est à nouveau lorsqu'on écoute souvent le président Talon, on n'a pas l'impression qu'il parle de dialogue. On a l'impression chaque fois qu'il reçoit et qu'il discute et qu'il explique pourquoi il a raison. Donc il faudra une posture différente pour être dans une recherche de solutions. Parce que l'enjeu à nouveau, ce n'est ni Patrice Talon ni Boniayi. L'enjeu, c'est le Bénin, c'est l'avenir d'un pays dans une région qui est extrêmement extrêmement troublée.
Merci.
Je finirai quand même en soutenant l'équipe béninoise de football qui fait son grand retour à la Coupe d'Afrique des Nations.
Voilà qui est dit. Gilles Yabi, merci beaucoup d'avoir été notre grand témoin, fondateur de WATI, West Africa Citizen Think Tank. Vous êtes économiste et analyste politique. Louis Magloire-Kemayou, merci d'être venu. C'était toujours un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Journaliste indépendant, l'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop. Régie technique assurée à Paris par François Richard, chargé de production Didier Ladislas Lando. Vous pouvez écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs africaradio.com et bbcafrique.com. Bon week-end à toutes et à tous. Bon week-end à vous, Liliane.
Merci Francis Laloupo et je me ferai le plaisir de vous envoyer un maillot. donc pour vous permettre de supporter l'équipe nationale du Cameroun et du Nigeria qui participent donc à la Coupe de foot, la Coupe du monde féminine de football.
Bon week-end.
Au revoir.
Bon week-end.